désobéissance, c'est comme des ongles qui crissent sur un tableau noir et ça ne laisse pas indifférent.
C'est chérir et encourager tous les autres sens à exister et se syndiquer.
C'est décidé, je m'extrais de ces normes qui détruisent le vivant, la nature, les oiseaux, la société. Liberté.
Oser une reprise de ce tube de la Reine des Neiges dans ce format bizarre, c'est une manière de désobéir un peu. Dans le sens de commencer quelque chose, d'une ouverture d'un monde des possibles, comme dirait le philosophe Frédéric Gros. Mais la désobéissance a plusieurs visages, comme la Maison du Récit à Lausanne qui en a fait son temps fort pour la saison 2024-2025. Parce que l'époque est trouble.
Destruction de nos habitats.
Démocratie menacée.
Inégalité croissante.
Mutation
nécessaire de nos modèles économiques.
En clair, on a besoin de retrouver un peu de clarté.
De ralentir, de réfléchir, de ressentir.
Pour résister aux normes qui détruisent et en créer de nouvelles.
C'était le bruit d'une porte. Je m'appelle Sarah Collère et j'aime imiter les bruits de portes.
Mais pas que.
Non, j'ai aussi suivi les événements de la Maison du Récit sur la désobéissance. Je vous propose de franchir ici les différentes portes de cette maison. Chacune a éclairé un visage de cette désobéissance et des manières variées d'y parvenir. On est sur le seuil.
Ça veut dire quoi, obéir ?
Excellente question.
Merci.
Selon le petit Robert, si on obéit à quelqu'un, on se soumet ou on se conforme à ce qu'il ordonne ou défend. Mais on peut aussi obéir à quelque chose, c'est se conformer à ce qui est imposé par autrui ou par soi-même. Ou par des habitudes, des codes de conduite, des récits qui orientent parfois inconsciemment nos choix en nous imposant des...
Il faut. Tu dois.
À respecter pour nous assurer l'amour de nos congénères et ainsi ne pas être rejeté,
écrasé,
comme un petit scarabée qui pue.
Ah.
Quels sont ces récits d'obéissance et comment on s'en libère ? Première porte, la mode. À la Maison du Récit, on organise des conférences qui sont appelées conversations. En gros, ce sont des conférences écourtées pour laisser plus de temps d'échange avec le public. Et il y a eu une conversation sur le magazine de mode Veillon, un catalogue de vente par correspondance. C'était intitulé sur Veillon, nos imaginaires érotiques.
Tu l'as ?
Un des deux intervenants, Patrick Morier-Genoux, écrivain et éditeur, a proposé une analyse des images du catalogue depuis le milieu du XXe siècle.
Spoiler, la mode influence vachement ce qu'on considère comme désirable ou pas désirable, permis ou interdit.
Mais la mode, c'est qui ? Qui décide de ce qui rend un corps désirable ? Pourquoi celui des femmes a-t-il été paré de corsets, strings et autres bouts de dentelle, alors que celui des hommes semble se suffire à lui-même s'il est viril et musclé ? Quelles ficelles politiques,
on note le jeu de mots,
sous-tendent les modes et comment tout ça façonne nos imaginaires érotiques ? Je crois qu'ici les questions sont plus importantes que les réponses. Les réponses, on les trouve dans de nombreux travaux historiques, sociologiques, qui montrent comment la mode a été et continue d'être un espace potentiel de contrainte ou d'émancipation.
Ce qui nous intéresse ici, la substantifique moelle, c'est de comprendre quelle est la posture qui favorise une émancipation, en fait.
Pour la deuxième intervenante, Romy Sigrist, psychologue et sexologue,
la réponse est dans le corps.
Attention, poème.
Revenir à nos sens, avoir en eux confiance, comme une boussole intérieure qui nous libère des normes extérieures. Ah, le corps, ces milliers de milliards de cellules qui savent des fois avant nous, des fois mieux que nous, ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce dont on a besoin. C'est pas facile de crier, hein. Je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, vraiment pas. J'ai voulu faire des cris dans mon micro pour illustrer la prochaine porte, mais c'est dur. C'est peut-être parce que c'est dimanche, mais en toute honnêteté avec moi-même, si ça avait été lundi, ça aurait été pareil, je pense. Parce que j'ai peur de déranger. Parce que c'est bizarre de crier quand on est un adulte.
Sauf au foot.
Quand on est enfant, c'est permis parce qu'on est en train d'apprendre à gérer nos émotions. Est-ce que ça veut dire que quand on crie, adulte, on est débordé ? Au foot, oui.
Quels cris sont tolérés ?
Quand on accouche, par exemple, ça paraît normal de crier, non ? Le corps, il a besoin d'expulser, de s'exprimer, il a besoin de sortir cette énergie. Comme quoi, il y a une part animale dans le cri, quelque chose de naturel, quelque chose qui doit sortir. Et quand c'est empêché par la culture, les normes, la bienséance,
c'est bloqué.
Pour aller plus loin dans ces réflexions, on vous invite à découvrir la création sonore « Histoire de cri » de l'autrice Amélie Charcosset.
Disponible sur toutes les plateformes.
Une nouvelle porte s'ouvre. Sur le seuil... Joanne Chassot. C'est qui ?
C'est qui ?
C'est qui ?
C'est qui ?
Katia, c'est la directrice de la Maison du Récit. Tu veux bien répondre à cette question ?
Joanne a tout un parcours académique, elle est docteur en littérature anglophone, études genre et études postcoloniales.
Wow.
Tu t'es formée aussi en pratiques narratives qui sont une manière d'utiliser la narration dans l'accompagnement, dans le soin. Et puis peut-être que c'est aussi ça qui va nous occuper ce soir. Comment est-ce qu'on raconte et comment est-ce que la manière dont on raconte va peut-être nous aider ou au contraire nous bloquer ou nous empêcher d'avancer sur un chemin de guérison, de transformation, d'élaboration de soi, etc.
Ce qui est fou, c'est que le parcours de Joanne qu'elle nous a raconté pour illustrer le rôle des métaphores dans sa vie, il a fait un méga écho au personnage principal du livre de Catherine Lovet, invitée de la première conversation. Catherine est journaliste et écrivaine. Elle a publié récemment un livre qui s'intitule « Histoire avec un petit H de l'homme qui ne voulait pas mourir » pour signifier que c'est une histoire parmi d'autres et en même temps notre histoire à toutes et tous. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui apprend qu'il a une maladie incurable et qui va tout tenter pour se soigner. On découvre ses réactions petit à petit au travers des yeux de sa voisine. Ces deux-là vont nouer une relation forte, mais ni amicale, ni amoureuse, juste humaine. Dans le public, on demande...
Ça voudrait dire quoi, désobéir face à la mort ?
Parce que ce personnage, il incarne un certain récit face à la maladie, qui semble dominant de notre société. Lutter, se battre, presque à n'importe quel prix. Plusieurs mois plus tard, Joanne nous apporte des pistes de réponse. Parce que face à la maladie, c'est cette métaphore-là qui lui est d'abord imposée.
Enfin, la première chose qu'on m'a dit, c'est « si c'est ça, si c'est un cancer, tu jetteras toutes tes forces dans la bataille ».
Joanne, ça lui convient pas du tout. C'est une autre métaphore qui l'aidera beaucoup plus, une métaphore qui était comme inscrite déjà dans son corps.
Quelques mois avant le diagnostic, j'étais partie en début mars 2020 pour un voyage à pied. Sur un chemin de pèlerinage, c'était un voyage qui devait durer 3 mois, qui a duré 2 semaines, parce que Covid, alors j'ai dû rentrer. Mais j'ai quand même marché pendant 2 semaines, et cette expérience-là de ces 2 semaines a vraiment eu un effet sur moi, ouvert des choses. Je pense que vraiment, mon inconscient, ou je ne sais pas comment le nommer, est allé chercher en fait une métaphore qui était là, qui était présente, et qui était vraiment très ancrée corporellement, pour justement porter, ou donner du sens, en fait, c'est le meilleur terme, à toute cette expérience.
C'est la fameuse métaphore du chemin.
Mais en gros, ça change quoi ? Ou comme dirait Katia...
En quoi les mots, c'est tellement important ? Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste des manières de parler ?
La métaphore guerrière, pour ça, c'est un bon exemple, parce que c'est vraiment une métaphore qui est... tellement normalisé, c'est-à-dire que lutter contre la maladie, lutter contre le cancer, ça paraît être une évidence en fait. Cette métaphore militaire, elle est très binaire, parce que on gagne ou on perd, on se bat ou on déserte. Il n'y a pas grand-chose entre deux. Il y a beaucoup de malades qui utilisent cette métaphore parce que ça leur donne de la force, se dire « je suis une warrior », ça on l'entend beaucoup. Et c'est super, sauf que quand elle est imposée de l'extérieur ou qu'elle est juste un peu normalisée comme ça, il y a des études qui montrent qu'elle a plutôt un effet culpabilisant aussi sur les personnes malades, parce que quand on réussit pas à vaincre la maladie, alors c'est quoi, on s'est pas battu assez fort, etc. On croit que c'est juste une manière de parler de lutter contre le cancer, mais en fait ça nous empêche d'envisager d'autres manières d'aborder la maladie, y compris en tant que société ou que culture en fait.
Petit point de situation.
On a observé jusque-là plusieurs récits dominants sur la mode ou la maladie.
Et les cris !
Ah oui. Qui encadrent nos imaginaires et guident nos actions. C'était le but de ces conversations, nous faire réfléchir. Maintenant, comment on change si on a envie de changer ?
Pour Catherine Lovet, l'écriture ouvre un espace d'expérimentation.
Elle dit « Je désobéis quand j'écris, car j'ouvre un espace dont je n'ai même pas encore conscience. » Dans ce temps fort, il y a eu plusieurs ateliers d'écriture. Certains d'une journée, animés par les invités des conversations, et un autre en résidentiel de 4 jours.
D'ailleurs, vous avez pu entendre 2 participantes à ce stage dans les 2 voix du début de cette restitution sonore.
Tout un programme d'exercices, d'enclencheurs à l'écriture était proposé, et chaque personne était libre d'y participer, mais aussi d'avancer sur un projet personnel.
En pouvant bénéficier aussi d'un suivi individuel.
C'est bien fait.
Ce qui est encore plus bien fait, c'est que ces gens, ils pouvaient après aller à des soirées scènes ouvertes où ils pouvaient lire leur création à d'autres gens, qui eux-mêmes pouvaient lire leur création à ces autres gens. Enfin...
Stéphane Renzik, qui anime ses soirées, il en parle vachement mieux.
Ouais, ça va.
Bienvenue pour cette dernière scène ouverte de la saison de la Maison du Récit. Merci aux fidèles habitués et habituées de revenir. Merci à vous les jeunes d'être là en force. Yeah ! Les scènes ouvertes, en fait, c'est très simple. C'est des passages de 5 à 7 minutes pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et la règle est simple, c'est que ce soit un texte que vous ayez écrit. Voilà, c'est la grosse contrainte du scène ouverte de la Maison du Récit, qui donne lieu à des merveilleuses soirées. Et on arrive à la dernière de cette saison, on a eu des très très belles soirées. Donc je vous remercie chaleureusement de votre participation.
J'ai pas l'habitude de lire à haute voix devant plein de monde, alors c'est comme un saut dans le vide.
Un jour, je me suis dit qu'en fait, les mots, pour moi, c'est un peu comme les cailloux que je pose et qui me guident.
Je vais vous raconter une petite histoire qu'on va peut-être appeler le contre-conte.
Les modes de pensée changent avec les générations, avec les années.
Nous serons les grains de sable dans la machine.
Tu ne seras pas en train d'être promené par ton chien, ni d'aller t'acheter des chips. Tu n'auras pas le nez dans ton téléphone.
Débrancher les prises, les réseaux sociaux, YouTube.
Les programmes informatiques avec des questions incompréhensibles.
Nous sommes multitudes dans les forêts. Enfants barges bruissantes dans les jardins fous.
Manifestons pour la révolution.
Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être adapté à une société malade.
Une tisserande les entend et les comprend. La tisserande rassemble alors tous les chants de toutes les créatures de la terre. Avec ses chants, elle tisse du temps.
C'est sur cette belle image que s'achève cette création sonore sur le temps fort 2024-2025 de la Maison du Récit,
intitulée
« Désobéir ou le grand récit de l'obéissance ». Merci à vous d'avoir écouté si vous êtes arrivés jusque-là.
Et
merci à toutes celles et ceux qui ont participé aux différents moments de ce temps fort. La porte se ferme. Y a rien de mieux que de terminer en désobéissant, du coup je laisse la porte ouverte en partant. Parce que ça continue en fait.
La prochaine saison sera sur la lenteur.
Retrouvez tout le programme sur www.lamaisondurécit.ch. On dirait trop une pub de télévision. En tout cas, on se réjouit de vous revoir. Ou de vous rencontrer.
Ah oui.